Vous écoutez
Le Modèle Standard,
un podcast gastronomique
de Nicolas Graner
et Valentin Villeneuve.
Aujourd'hui,
Système Jovien, Galilée Régalé.
Première partie.
Salut Nicolas!
Bonjour Valentin!
Alors, figure-toi que pour une fois, c'est moi qui ai eu une idée pour l'épisode d'aujourd'hui.
Aha.
Y a une chanson qui a joué un rôle dans l'histoire de l'astronomie et de la conquête spatiale.
Ah bon?
C'est une chanson qui s'appelle « Fly me to the moon ».
Ah, fais-moi voler jusqu'à la Lune.
Eh oui.
Mais la Lune, on a déjà fait un épisode dessus, on va peut-être pas recommencer quand même.
Ah, zut. Remarque, on change toujours des trucs, donc...
On pourrait parler d'autres lunes. Des lunes, tu sais, dans le système solaire, il y en a plein, il n'y a pas que notre Lune.
Ah, du coup, je pourrais dire « Fly me to the moon of... »
Jupiter, c'est quand même les plus connues, hein, les plus intéressantes. Tu sais, il y a les fameuses lunes galiléennes. Io, Europe, Ganymède, Callisto. Et puis Jupiter a plein d'autres lunes aussi. Oui, on peut faire un épisode là-dessus sans problème.
Ah, du coup, ça donnerait « Fly me to the Galilean moons ».
Oui, c'est comme ça qu'on dit.
D'accord. Et donc, tout ça, c'est Galilée qui les a découvertes. C'était au XVIIe siècle, c'est ça?
Oui, c'est ça, au début du XVIIe siècle. La lunette d'approche, elle a été inventée en 1608. Mmh. Et Galilée, il en a entendu parler très rapidement. Il s'en est fait une. Et ça a été donc un des premiers à la tourner vers le ciel et à faire des observations astronomiques avec ça.
Mmh.
Il a découvert plein de choses très importantes. On en a déjà parlé, d'ailleurs, dans d'autres épisodes. Mais là, ce dont je voulais te parler, c'est une découverte qu'il a faite tout début de 1610. Le 7 janvier, très précisément, la nuit du 7 janvier,
ouais.
Il observait Jupiter.
D'accord.
Et à côté de Jupiter, il a vu trois petits points, donc trois nouvelles étoiles. Bon, ce n'était pas la première fois qu'il découvrait des étoiles qu'on ne pouvait pas voir avant, grâce à sa lunette. Mais là, la nuit suivante, il s'est aperçu que déjà, il n'y avait plus trois étoiles, il y en avait quatre.
Ah.
Et puis, elles étaient restées tout près de Jupiter, mais pas exactement au même endroit. Et puis les nuits suivantes, au fur et à mesure que Jupiter se déplaçait dans le ciel, les étoiles, elles le suivaient.
Ah.
Et elles changeaient de côté. Alors, de temps en temps, on en voyait une d'un côté, deux de l'autre, trois du même côté. Il y a des très beaux dessins dans les cahiers de Galilée qui montrent ça. Et il a fini par comprendre assez rapidement, au bout de quelques jours, que c'était des choses qui tournaient autour de Jupiter.
Des trucs en orbite autour de Jupiter.
Alors ça, ça a l'air de rien maintenant, on est habitué. Mais pour l'époque, c'est quelque chose de complètement inattendu, vraiment tout à fait. Ça bouleversait les idées de l'époque. Parce qu'il faut te rappeler qu'à ce moment-là, le modèle dominant, hein, ce à quoi la plupart des gens croient, c'est le système géocentrique.
Avec la Terre au milieu et tout le reste qui tourne autour.
Oui. Et Galilée, lui, par contre, il est partisan du système de Copernic, hein, qui est une invention récente encore, qui est le système héliocentrique.
Avec le Soleil au milieu, donc.
Et toutes les planètes qui tournent autour. Il y a juste la Lune qui tourne autour de la Terre.
D'accord.
Mais les gens ne sont pas convaincus de ça, parce que quand on regarde nous dans le ciel, on a l'impression que tout tourne autour de nous. Et donc l'idée... que quelque chose puisse tourner autour d'un autre astre, autour de Jupiter, par exemple, ça, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et en même temps, pour Galilée, c'est quand même un argument en faveur du système héliocentrique. Bon, ça ne prouve pas que tout tourne autour du Soleil, mais déjà, si on lève ce blocage mental de dire « tout ne tourne pas forcément autour de la Terre
»,
c'est quand même un sacré argument. Tu vois, il pourrait y avoir le système solaire, avec les choses qui tournent autour du Soleil, et puis on pourrait dire le système jovien de ce qui tourne autour de Jupiter.
D'accord, ah, je viens de t'expliquer. Bon, ok. Donc, il fait cette découverte, et il la publie, alors ?
Et alors, il a écrit un livre très peu de temps après, en mars 1610, où il racontait toutes les découvertes qu'il avait faites depuis qu'il commençait avec sa lunette, et en particulier les satellites de Jupiter. Ce livre, il a intitulé « Le messager céleste ».
Ok.
Et ça a eu énormément de succès. Enfin, bon, à l'époque, on ne vendait pas des millions d'exemplaires d'un livre, c'était quand même pour les gens cultivés. Mmh. Mais ça s'est vendu très rapidement, et dans toute l'Europe, les gens cultivés ont lu ça et ont été au courant. Et c'était vraiment une révolution. Alors, il y a des gens qui y croyaient, ceux qui n'y croyaient pas. Enfin, c'était le sujet chaud du moment.
D'accord, donc Galilée est devenu une espèce de rockstar.
Oui, tout à fait.
Mais alors, c'est lui qui a dit « Bon, je vais les appeler des lunes galiléennes », il n'était pas prétentieux.
Non. Déjà, il ne les a pas appelées des lunes. Pour lui, c'était encore des étoiles.
Ouais.
Comme c'était des étoiles qui se déplacent, il appelait ça les étoiles errantes. Déjà, il y a le mot grec « planète » qui est passé par le latin et qui a donné... En français, planète, c'est les astres errants.
Ah.
Et donc là, c'était des étoiles errantes.
D'accord.
Et d'ailleurs, puisqu'il fallait leur donner un nom, Il a dit, ben, je vais les dédier à la famille Médicis, hein, la famille qui dirigeait Florence à ce moment-là. Et il proposait de les appeler les étoiles médicéennes.
D'accord, un petit peu de lèche comme ça, aux puissants, ça fait toujours du bien.
Ben, tu te rappelles quand on a parlé de Herschel, il avait découvert une planète, il l'avait appelée.
Ah oui, l'étoile du roi Georges.
Voilà, bon, mais c'est pas resté. Ben, là, c'est pareil, c'est pas le nom qui s'est imposé. En fait, c'est Kepler, hein, le grand astronome allemand de l'époque, qui s'est mis à en parler, puisque tous les astronomes en parlaient. Et lui, il a inventé un mot pour ça, puisque c'était un concept nouveau. Il a inventé le mot satellite.
Ah, ça n'existait pas avant, en fait.
Ben non, puisqu'on ne connaissait rien qui tournait autour d'autre chose que la Terre. Donc, satellite, ça veut dire gardien, protecteur. Donc, c'était les protecteurs de Jupiter.
Ah.
Et ça, c'est le mot qui est resté, bien sûr, qu'on continue à utiliser encore aujourd'hui.
C'est bah oui. Officiel. Et puis d'ailleurs, nous, les satellites, on en fabrique nous-mêmes, de toute façon.
Alors ça, c'est un petit problème, effectivement, à partir de 1957, quand on a commencé à fabriquer des satellites, on les a appelés satellites artificiels, et puis les autres, les satellites tout court, c'était les naturels. Et puis maintenant, comme c'est un peu l'inverse, il y a tellement de satellites artificiels, de communication, de météo, de tout ce qu'on veut, que quand on dit juste un satellite sans préciser, ça veut dire artificiel.
Ah, d'accord.
Quand on parle de ceux qui tournent autour de Jupiter ou d'autres, on dit satellite naturel, mais c'est un peu lourd. Donc ouais. Maintenant, on a tendance à dire les lunes. On dit les lunes de Jupiter, les lunes de Saturne. Mais avant, c'était un peu puéril, un peu ridicule de dire ça.
Les lunes de Jupiter. Moi, ça m'arrange, ça fait moins de syllabes.
Ah oui, porte à son sens, ça va être plus facile. D'ailleurs, c'est venu en partie de l'anglais, parce que les anglophones, eux, ils disaient plus facilement moon. Donc maintenant, c'est passé aussi dans la langue en français.
D'accord, donc d'où cette expression de lune galiléenne, Galilean Moons, comme c'est Galilée qui les a découvertes.
Exactement. Alors, est-ce que c'est vraiment Galilée qui les a découvertes? Là-dessus aussi, il y a une controverse.
Ah, zut.
Il y a un autre astronome allemand qui s'appelait Simon Mayer. Enfin, ouais. À l'époque, on latinisait les noms, donc il se disait Simon Marius.
D'accord, ouais, Marius.
Ouais. Non, il n'était pas marseillais, il était allemand, qui a observé au même moment et qui, lui, a publié nettement plus tard, 1614, hein, 4 ans après. Mais dans son livre, il donne les dates où il a observé ces satellites de Jupiter et c'est juste avant Galilée. Donc il affirme que c'est lui qui les a découvertes.
Ah, zut.
Alors, Galilée n'était pas content, évidemment, surtout que ce Marius, ce n'était pas un inconnu pour lui. C'était un astronome tout à fait réputé. Ils s'étaient rencontrés, d'ailleurs, quelques années avant. Mais il y avait déjà eu, donc bien avant cette histoire de Jupiter, une affaire de plagiat.
Oh, ouh.
Alors, ça n'avait rien à voir avec l'astronomie. Galilée, il a inventé beaucoup de choses. Et notamment, il avait fait un instrument de géométrie qui s'appelle un compas de proportion,
ouais.
Qui servait à faire des dessins à l'échelle. Et il y a un certain Baldassare Capra qui s'est mis à vendre cet instrument sous son nom, en prétendant que c'est lui qui l'avait inventé.
Ouh.
Donc une affaire de plagiat. Sauf que ce Baldassare, c'était un élève de Marius.
Ah.
Et Galilée a toujours été persuadé que c'était Marius qui était à l'origine de cette affaire. Ah. Et donc, il le détestait déjà avant. Alors tu penses bien qu'en 1614, quand ce même Marius arrive en disant « c'est moi qui observais les lunes de Jupiter le premier », ça a un peu clashé.
D'accord. Bon, mais en fin de compte, finalement, Marius, c'était une supercherie.
Alors, une supercherie, pas vraiment, parce que c'est clair qu'il les a vraiment observés lui-même. D'ailleurs, dans ses dessins, dans ses observations, il y a des détails que Galilée lui-même ne mentionne pas. Donc, il ne s'est pas contenté de recopier ce qu'il y avait dans le livre de Galilée, ça c'est okay. Sûr. Mais par contre, l'histoire des dates, Marius, il dit qu'il a observé en décembre 1609. Et Galilée, c'est en janvier 1610.
Bon,
donc
bah,
là, ça paraît clair.
Oui.
Sauf qu'ils n'utilisaient pas le même calendrier.
Ah.
À l'époque, ça fait à peine une trentaine d'années que le pape Grégoire XIII a réformé le calendrier.
Ah.
Tu sais, on est passé du calendrier julien au calendrier grégorien,
ah bah oui.
Qu'on utilise nous maintenant.
Ouais.
Sauf que bah, les pays catholiques, ils ont tout de suite suivi ce que disait le pape. Les pays protestants, comme l'Allemagne, pas question.
Ah, donc ils étaient restés au calendrier d'avant.
Au calendrier julien, voilà. Et donc, si tu fais la conversion, la première date que donne Marius, ça correspond à la veille de la première date de Galilée.
Ah, il n'y a qu'un seul jour de différence.
Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que Marius a trafiqué pour dire qu'il était le premier? Évidemment, à un jour près, c'est difficile à dire.
D'accord.
Et puis en plus... Dire qui a découvert les lunes de Jupiter, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le jour où tu observes juste un petit point lumineux pour la première fois, mais tu penses que c'est une étoile. Après, il y a quelques jours après où tu réalises que ça suit Jupiter, que ça doit avoir un rapport. Et puis encore, peut-être une semaine après, où tu dis, mais non, vraiment, c'est clair, ça tourne autour de Jupiter. Et là, tu peux vraiment dire, j'ai découvert le satellite.
Oui.
Donc, voilà, qui a réalisé, qui a compris ce qu'il observait, quel jour exactement? On ne saura jamais.
Bah, en tout cas, on sait qui l'a annoncé le premier.
Voilà, alors en science, par convention, la personne à qui on attribue une découverte, c'est celui qui a publié le premier. Hein. Mmh. Si on fait tous les deux une expérience aujourd'hui et puis que moi je publie un article dans 2 mois et toi dans 3 mois, bah, tant pis pour toi, j'ai gagné. Donc là, clairement, pour l'histoire, c'est l'une découverte par Galilée, mais il faut savoir qu'il n'était pas le seul à faire ce travail-là à ce moment-là. Mmh. Alors, le plus rigolo dans cette histoire de controverse, c'est qu'en fait, l'un comme l'autre, ils auraient très bien pu ne pas être les premiers, parce que Ganymède est la plus grosse lune de Jupiter. Dans certains cas, on peut arriver à l'avoir à l'œil nu.
Ah.
Et d'ailleurs, les Chinois ont ressorti un texte d'un astronome chinois de 362 avant Jésus-Christ.
Ah ouais, avant l'ère commune, carrément.
Donc là, on est 2000 ans avant Galilée, quasiment.
Ouais.
Où il dit qu'il a observé une étoile juste à côté de Jupiter qui, bon, d'après ce qu'on sait maintenant, aurait pu être Ganymède. Évidemment, on ne peut pas le prouver. Hein, mais... donc c'est possible que toute cette dispute, finalement, soit pour quelque chose qui était déjà connu très, très, très longtemps avant.
Mais alors, tu me parles de Ganymède, c'est quoi? C'était un copain de Galilée? Il lui a donné son nom
Non, on a renoncé aux lunes médicéennes, c'est pas pour mettre un copain. Non, c'est des noms mythologiques. Alors, Galilée, lui, il s'est pas foulé. Il les a appelés 1, 2, 3, 4,
ouais.
Dans l'ordre du plus proche au plus loin de Jupiter. Et d'ailleurs, c'est toujours les noms officiels. Hein. Si tu regardes l'Union astronomique internationale, les satellites d'une planète, on donne le nom de la planète et puis un chiffre romain après. Donc Jupiter I, Jupiter II, Jupiter III,
et Jupiter IB.
Voilà. Bon. Mais Marius, il s'est dit que finalement, puisque toutes les planètes ont des noms qui viennent de la mythologie, hein, des dieux, des déesses, Mars, Vénus, Jupiter et compagnie, ce serait pas mal de donner aussi des noms mythologiques.
Ah.
Alors d'après ce qu'il dit, c'est même Kepler qui lui aurait soufflé les noms.
Ouais.
Il s'est dit, puisque ça tourne autour de Jupiter, on va prendre des personnages mythologiques qui ont un rapport avec Jupiter.
Un rapport, des rapports crac-crac
ouais, mais tu ne crois pas si bien dire. Alors, la plus proche, c'est Io.
Oui.
Io, ça te rappelle peut-être quelque chose si tu fais des mots croisés. On dit toujours qu'elle a été changée en vache.
Ouais.
Effectivement, c'est Jupiter qui l'a changée en vache pour lui se changer en taureau. Et
d'accord, ok.
Europe, Callisto, c'est pareil, c'est des nymphes. Voilà. Ganymède, c'est un peu plus original, c'est un jeune homme.
Ah.
Qui plaisait bien à Jupiter. Jupiter s'est changé en aigle. Il a pris Ganymède sur son dos, il l'a emmené dans son nid. Et là,
pareil.
Okay. Donc, tu vois, à l'époque, ils n'étaient pas coincés. Ils mettaient un...
Ah oui, c'est inclusif, là, comme c'est... prédateur sexuel.
Absolument. Donc,
bon,
c'est
okay.
Le mariage pour tous, les satellites pour tous, pas de problème. Okay. Alors, en fait, ces noms, ils ont été proposés par Marius, mais ils n'ont pas été tellement utilisés jusqu'au XXe siècle, en fait. On utilisait vraiment les numéros. Mm. Et c'est là depuis... milieu du XXe siècle, ça s'est popularisé.
D'accord.
Et maintenant, vraiment, tout le monde les appelle comme ça.
Et donc, tout ça, ça serait en fait Kepler qui a eu l'idée.
Oui, enfin, c'est ce que dit Marius, mais c'est Marius qui les a publiés. Alors, il y a une légende qui dit que ce serait peut-être ni l'un ni l'autre, mais que le premier qui a eu l'idée, ce serait Cervantes.
Attends, Cervantes, l'écrivain espagnol, là, le mec qui a écrit Don Quichotte ?
Oui. Alors, c'est pas tout à fait faux, si on veut. Cervantes a publié un poème.
Ouais.
Juste en 1614, juste quelques mois avant le livre de Marius, qui était à la gloire de la reine Marguerite d'Autriche, bon, peu importe. Mais il y a un passage où il parle des astres, alors le soleil, la lune, et il dit « Autour de Jupiter, il y a des petits Ganymèdes qui vont, qui viennent, qui passent et qui repassent. »
Ah bon ? Des petits Ganymèdes ? Mais ça veut dire qu'ils connaissaient les travaux de Galilée, alors ?
Alors, il savait effectivement qu'il y avait des satellites de Jupiter parce qu'il était cultivé et que le livre de Galilée, 4 ans avant, s'était très bien vendu. Donc, effectivement, il en avait entendu parler. Ça, c'est déjà pas mal pour un poète écrivain.
Ouais.
Mais par contre, il n'a pas donné un nom à chacune des lunes. Hein. Il a dit « des petits Ganymèdes ». Donc, ça veut dire en gros qu'il a eu la même idée que Marius. Il s'est dit « puisque c'est des petits trucs qui tournent autour de Jupiter, il connaissait bien sa mythologie comme tous les gens cultivés de l'époque. Il a proposé ce nom-là. »
D'accord.
Peut-être, il y a des gens qui font l'hypothèse que peut-être il y aurait quelqu'un qui aurait lu ce poème et qui en aurait parlé à Marius et que c'est ça qui lui aurait donné l'idée, mais vraiment, il n'y a aucune raison de supposer ça, quoi. Deux personnes, indépendamment, qui cherchent à donner un nom à un compagnon de Jupiter, ce n'est pas très étonnant qu'il retombe sur le Ganymède.
Ouais, enfin quand même, ça fait du beau monde, là, entre Galilée, Cervantes et Kepler.
Ah, c'est pas mal, ouais.
Bon, alors, heureusement, l'histoire de la chanson Fly Me to the Moon, elle est quand même un peu moins compliquée, mais c'est quand même une chanson qui a eu plusieurs vies, puisque à l'origine, donc on est en 1954, et c'est un simple pianiste de cabaret, voilà, qui improvisait comme ça, qui fait de la variette, qui s'appelait Bart Howard, qui a écrit une petite romance qui s'intitulait In Other Words.
In Other Words, en d'autres mots.
C'est ça. Alors c'est une petite chanson d'amour, hein.
valse lente, on dirait.
C'est ça, c'est une valse. Alors voilà, c'est vraiment une romance, ça parle d'amour, ça parle de ce genre de choses. Bart Howard, c'était un mec assez attachant, très très sensible. J'ai trouvé une citation de lui, je vais te la traduire. Il dit « Que puis-je dire, sinon que mes chansons parlent d'amour, ce sentiment dingue et ambigu fait de rire et de larmes, de simple compréhension et de rejet ahurissant, de forfanterie comique et de déraison complètement sincère. Je me mets toujours à écrire des paroles avec une sorte de compassion bienveillante à l'égard des pauvres créatures qui s'efforcent de faire face à cette émotion charmante et infernale. »
Infernale, carrément.
Oui, dans le texte c'est « Dear Devil Emotion ».
Ah, cette émotion du diable.
Voilà. Alors, comme les mots ne suffisent pas, je continue la citation, comme les mots ne suffisent pas pour raconter toute l'histoire, je cherche des mélodies et des harmonies qui expriment les affres derrière ce que les paroles observent factuellement. En tout cas, j'essaye d'écrire pour les chanteurs compréhensifs, en majuscule, et les arrangeurs sensibles, en majuscule aussi, qui savent communiquer avec le cœur des spectateurs, dans l'espoir que nos talents ajoutés pourraient éveiller une attention plus compatissante, éclairer les recoins où se cachent les amoureux.
Dis donc, il a des belles choses à dire sur l'amour, en tout cas.
c'est pas totalement innocent, parce que lui, quand il parle d'amour, il parle d'une chose très précise, c'est que c'était un homosexuel déclaré et assumé.
Ah oui, dans les années 50, c'était plus compliqué même que de parler de Ganymède au XVIIe siècle.
Tu peux le dire, ouais. Et lui, il a vraiment assumé ça pleinement. Il a vécu près de 60 ans avec son compagnon. C'était pas son mari parce que c'était interdit. Et donc, quand il demande en lettres capitales de s'adresser à des chanteurs compréhensifs...
À propos de l'amour, oui, il sait de quoi il parle.
Ça a une signification particulière, voilà.
Et alors, il dit quoi, que ses mélodies et ses harmonies trahissent quelque chose de torturé dans la valse que tu as fait entendre. Là, ça n'a pas l'air très torturé.
Oui, pas franchement. Bon, on en parlera plus en détail, mais c'est vrai que ça reste quand même de la musique de variété, de la musique légère. Et la musique même relativement facile d'écriture. D'ailleurs, il y a une autre citation de lui qui dit « Il m'a fallu 20 ans pour savoir écrire une chanson en 20 minutes ».
Bon, écoute, c'est à peu près ce que tu fais là dans nos podcasts.
C'est vrai.
Un peu plus de 20 minutes, mais pas tant que ça.
Voilà. Alors, donc, c'est sûr qu'à l'origine, c'est cette petite basse. Hein, de... Et elle aurait pu rester comme ça à trois temps.
Ah bah oui, si c'est une valse.
Voilà, nécessairement. Mais il va lui arriver quelque chose de sympa, c'est qu'en 1960, elle va passer dans une émission de télé.
Ah, c'est la gloire, ça.
Ah, c'est le jackpot, là, j'ai dû le dire. Donc, cette fois, elle va changer un peu. Déjà, le titre, ça va être plus In Other Words, mais ça va être le début des paroles. Et le début des paroles, c'est... Fly me to the moon.
Ah, fais-moi voler jusqu'à la lune.
C'est ça.
Ça veut dire emmène-moi au septième ciel ou...
Oui, puisque c'est une chanson d'amour. Mais c'est sous ce titre-là qu'elle va devenir non seulement un tube, mais aussi un standard de jazz.
C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres jazzmen qui la reprennent et qui la modifient chacun à sa sauce.
Ah tu peux le dire. En 1964, donc seulement 4 ans après qu'elle est passée à la télé, Bart Howard estimait qu'il y avait déjà 100 versions différentes.
Oula, oui, ça c'est pour un standard.
Tu vois, ça y va. Hein. Et c'est vrai que ça a été dans des styles extrêmement divers. Par exemple, il y a notamment une version bossa nova, tu vois, latin jazz, tout ça, qui va être interprétée notamment par la jeune chanteuse Astrud Gilberto.
Ah oui, on en avait déjà parlé dans un autre épisode.
Oui, tout à fait. Et au-delà de elle, c'est surtout en 1964, elle va être enregistrée par le chanteur super méga star Frank Sinatra.
Ah oui.
Et puis il n'était pas tout seul, hein, il y avait des légendes du jazz autour de lui, il y avait Count Basie, il y avait Quincy Jones.
C'est la Dream Team du jazz à l'époque, ça.
C'est ça, la Dream Team ou le Star System, hein, en tout cas. Et ça, cette version, figure-toi que quelques années plus tard, elle va même se retrouver sur la Lune.
Sur la Lune, dans les astronautes d'Apollo.
Et oui, tout le programme spatial Apollo, donc on est en plein dans la décennie 1960. Hein. Et figure-toi que pour toutes les missions Apollo, la NASA fournissait à chaque astronaute un petit magnétophone de la taille d'un baladeur, en gros.
Attends, le baladeur, c'est apparu au moins 10 ans après.
Oui, mais la miniaturisation était déjà quand même vachement poussée. C'était quasiment la taille d'un Walkman. Et pourquoi ils avaient ce magnétophone? Pour enregistrer des observations au fur et à mesure.
Ah oui, leur carnet de notes.
C'est ça, oral. Mais les astronautes, ils ont très bien compris que ces petites cassettes où ils pouvaient enregistrer des choses, elles n'étaient pas obligées d'être vierges au départ de la Terre. Et donc, Ils ont porté chacun une playlist à la NASA. T'avais quelqu'un qui leur faisait leur petite playlist pour chacun selon ses goûts musicaux et tout.
Ah, donc ils emmenaient des cassettes enregistrées et après ils réenregistraient leurs notes par-dessus.
C'est ça. Et donc comme ça, ils pouvaient écouter de la musique pour s'occuper quoi, quand ils n'avaient rien d'autre à faire. Et...
oui, c'est vrai que le voyage durait 3 jours, ils avaient le temps de s'ennuyer. Et donc ils ont emporté Fly Me to the Moon, c'était assez approprié.
Oui, alors bon, pour être tout à fait complet, il y avait donc plein d'autres chansons aussi. Hein. Mais quand tu vas voir les archives des missions Apollo, c'est très rigolo parce qu'il y a des intermèdes musicaux tout le temps en fait. T'as le centre de contrôle qui dit « Ah, on entend de la musique, c'est quoi ?» Et même quand ils étaient arrivés sur la Lune, ils disent « Oh là là, il y a Buzz qui fait un bruit bizarre là, qu'est-ce qui se passe ?» Et Neil Armstrong qui leur répond « Ah ben non, il est en train de chanter là, on est en train d'écouter de la musique en mangeant. »
Tu sais que tous les enregistrements des missions Apollo, on peut les écouter librement sur le web, hein. Faudra mettre le lien sur la page de l'épisode.
Absolument, et donc parfois bah, t'entends crachotant des extraits de musique, et notamment donc Fly Me to the Moon, notamment sur Apollo 10, quand Jim Cernan l'a écouté pendant qu'ils étaient en train de voler en orbite autour de la Lune.
Ah bah c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas trouver une chanson plus appropriée.
Oui, c'est de circonstance. Hein. Mais c'est devenu une chanson assez emblématique de toute cette décennie. Et même en 2012, à l'enterrement de Neil Armstrong, donc le premier homme sur la Lune, ils ont joué cette chanson « Fly Me to the Moon ».
Ah oui, tout ça, en fait, c'est parce qu'ils avaient changé le titre, ce n'était pas le titre d'origine.
Oui, enfin, il y a plus que le titre qui a changé. Parce qu'elle a quand même subi un certain lifting. On peut le regarder un petit peu en détail. Est-ce que tu peux me jouer ? Do, si, la, sol, fa.
Alors attends, pas trop vite. Do,
fa, sol, la, do, si.
Sol, la, do, si.
La, sol, fa, mi.
La, sol, fa, mi.
Voilà, donc là on est encore dans le rythme de la valse, hein, le rythme d'origine. Maintenant, est-ce que tu peux me jouer toutes ces notes, mais de façon complètement régulière ?
Ah, c'est plus une valse alors.
Ah non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je ne t'avais pas demandé d'accélérer le tempo, mais tu l'as fait toi-même. Parce qu'on a envie voilà, d'accélérer, d'aller un peu plus vite. Et en plus, ça passe à 4 temps, comme tu l'as remarqué. Donc là, c'est plus une valse et ça va un peu plus vite. Mais, étape suivante, on va ajouter une syncope.
Oula, tu veux que je tombe dans les pommes ?
Non, une syncope, c'est juste une formule rythmique. Alors, on va le faire en plusieurs étapes, t'en fais pas. Pour l'instant, dans chaque mesure, le troisième et le quatrième temps de chaque mesure, tu vas doubler la note, tu vas la jouer 2 fois. Donc, tu vas faire do, si, la, sol, sol, fa. Vas-y. Ah,
je mets 2 croches à la place d'une noire.
C'est ça, exactement. Et do, si, la, sol, sol, fa. Sol, la, do, si, la. Sol, sol, fa, fa, mi. C'est ça.
Oh là là, je suis un grand pianiste. Hein.
Alors attention, étape suivante, puisque tu t'en sors bien. Maintenant, quand tu fais ces croches là, la première, tu vas la jouer qu'une seule fois. Tu vas passer directement à la suivante qui va être répétée, puis la suivante, tu vas la répéter aussi. Vas-y. Ah. Do, si, la, sol, sol, fa, fa. Sol, la, do, si, si. Très bien. La, sol, fa, fa, mi, mi. C'est ça. Voilà.
Ah oui, en fait, c'est le même rythme, mais tu as juste décalé la mélodie d'une note.
C'est ça. Et enfin, maintenant, la dernière étape. Toutes les notes que tu as répétées là tout de suite, maintenant, au lieu de les répéter, tu vas les tenir.
Donc, au lieu de faire 2 croches, je fais une noire.
C'est ça.
Au lieu de faire 1 croche, une noire, je vais faire
une noire pointée. Bon courage. Et do, si, la, sol, fa, a. Sol, la, do, o, si, i, la, sol, fa, a, mi, i. C'est ça. 2, 3 et 4. Bravo. Donc c'est ça la syncope. Et donc tu vois, à chaque fois dans tes petites formules, les 2 dernières notes, en fait, elles tombent avant le temps. Elles sont anticipées.
Oui, c'est-à-dire au lieu de faire 2 noires, 1 sur chaque temps, je fais 1 croche et tout de suite 1 noire. Donc ma noire, elle commence avant le temps.
C'est ça.
Et après, la suivante, du coup, va être décalée aussi, jusqu'à ce que je refasse 1 croche pour me recaler.
Voilà. Et donc, ce rythme syncopé explique de quelle façon ça a pu se prêter aussi facilement à des rythmes latino-américains, la bossa nova, etc. C'est plein de syncopes et de contretemps, tout ça.
Parce que c'est plus dansant que de faire des trucs ploum-ploum-ploum sur le temps.
Voilà. Mais c'est pas tout. Parce que quand tu as des croches, bah, tu peux les swinguer, comme tu sais.
Ah oui, c'est-à-dire faire la première plus longue et la deuxième plus courte.
C'est ça, exactement.
Pam, 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 pam.
Pam, 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 mais vas-y, vas-y. Alors, on va reprendre, si tu veux, les 2 dernières étapes qu'on avait faites. Hein. Mais cette fois, tes croches, elles vont être inégales. Oula. Donc, et, do, si, la, sol, sol, fa, fa, sol, la, do, si, si, la, sol, fa, fa, mi, mi. Ben voilà, ça groove comme un chef, là.
Incroyable.
Et maintenant, ben, même chose, au lieu de les répéter, tu vas les tenir. Alors, do, si, la, sol, fa, a, sol, la, do, o, si, i, la, sol, fa, a, mi, i. Et tu vois, quand tu swings, cette anticipation, ce déséquilibre dont je parlais, il est vraiment au dernier moment, tu vois, ça arrive juste avant le temps.
Ah oui, il y a moins d'une croche de décalage, puisque ma deuxième croche, elle est plus courte.
C'est ça. Et donc, ce déséquilibre est encore plus accentué.
Ça swing un peu plus, effectivement. Mais la mélodie, les harmonies, elles sont changées aussi ?
Non, la ligne mélodique reste exactement la même. Les enchaînements d'accords restent exactement les mêmes. D'ailleurs, en fait, parler de la mélodie et parler des harmonies revient exactement au même dans cette chanson.
Attends, tu veux dire que chaque accord correspond à chaque note ?
Bah quasiment. Si tu prends... rejoue-moi la mélodie, s'il te plaît.
Tu tiens vraiment.
Mais tu vas jouer seulement une note sur quatre.
Oula.
Donc la première... Ah. Et après, on va faire do, si, la, sol, fa. Sol, la, do, si, la, sol, fa, mi. Donc, tu vas me rejouer ces quatre notes. Déjà, tu vois, on a un dessin en ligne brisée. Hein. Ça descend, ça monte, ça redescend.
Oui.
Tu vas rejouer ces quatre notes. Et en même temps, moi, j'ai juste la basse, la note fondamentale de chaque accord. Écoute bien. Do, si, la, sol, fa, sol, la, do. Si, la, sol, fa. Moi, ce que j'ai joué, c'était ça. Et tu entends que... Il y a comme un parallélisme entre ces notes sur lesquelles la mélodie s'appuie et les notes fondamentales des accords.
Oui, ça monte, ça redescend d'autant à chaque fois.
Tout à fait. Et c'est pas un hasard, puisque ma première note de la basse, c'était la, et la note de la mélodie, c'était do. Donc ça, dans un accord, c'est ce qu'on appelle la...
La tierce.
Exactement. Après, la note de la basse, c'était ré, et la mélodie s'appuyait sur le fa.
Ré, mi, fa, c'est encore une tierce.
C'est encore une tierce. La basse, ensuite, c'est le sol. La mélodie joue un si, donc encore la tierce.
Donc en fait, à chaque fois, tu fais un accord de tierce en dessous de la note c'est que ça. Je joue à la mélodie.
Et je finis avec un do à la basse et le mi. Donc do, fa, si, mi dans la mélodie et la, ré, sol, do à la basse.
Ah mais attends, ça me rappelle quelque chose cet enchaînement. C'est pas les trucs dont on avait parlé dans les premiers épisodes ?
Eh oui, la, c'est la sixième note dans ma gamme de do majeur.
Oui.
Après ré, c'est la
deuxième.
Sol, c'est la
cinq.
Et do,
la première.
Donc 6, 2, 5, 1.
Mais c'est l'Anatole !
Eh oui, c'est notre ami l'Anatole !
Vous avez fait tout un épisode là-dessus.
Eh oui, dans le double épisode sur la Lune. Et donc cet enchaînement de quatre accords, hein, l'Anatole, qu'on trouve partout, partout, partout dans la variété, le jazz, l'accord de La mineur, l'accord de Ré mineur, l'accord de Sol majeur et l'accord de Do majeur pour finir. Et après, on le fait tourner en boucle.
En fait, toutes les chansons de Charles Trenet, si je me rappelle bien.
C'est ça. Donc, finalement, Barto Ward, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est appuyé sur les tierces de chacun de ces quatre accords. Et puis, il a rajouté des notes de la gamme, tout simplement. Hein, do, si, la, sol, fa, entre eux. Alors, quand il remonte, tu vois, il fait un petit décrochage. Sol, la, do, si. Oh,
c'est la seule petite astuce, au lieu de faire juste les notes qui suivent.
Voilà, les notes conjointes, comme on dit dans le grand monde. Et après, il redescend jusqu'au mi. Donc, bah, moi, évidemment...
Ah bah toi, comme je te connais, tu vas faire le contraire. Quand ça monte, tu descends, et quand ça descend, tu montes.
Tout juste Auguste, enfin, Barthes.
Oui, ou Anatole.
Ou Anatole. Donc, effectivement, moi, je vais faire une mélodie à base de montagnes qui montent et qui descendent. Mais je vais commencer en montant. Et puis, je vais peut-être même faire le petit décrochage, là. Mais je vais aller chercher sur un accord un peu plus riche, un accord de 11e.
Waouh,
beaucoup plus beau. Et après, je vais faire quelque chose un petit peu à ma façon. Donc voilà, j'ai une ligne mélodique du style... Tu vois ? Voilà, quelque chose comme ça.
La mélodie est bien, mais les paroles sont un peu pauvres, non?
Bah, écoute, tu m'as rien raconté, finalement, sur les lunes galiléennes pour l'instant, donc je fais avec ce que j'ai.
Ah, c'est vrai, oui, il faut que je te donne un peu de matériau. Bon, bah écoute, on va repartir chez Galilée.
Oui.
Alors, Galilée, quand il a fait sa découverte, donc évidemment, c'était super important pour l'astronomie, mais en plus, il s'est dit que ça allait peut-être lui rapporter de l'argent.
Ah, avec les ventes de son livre?
Il n'y a pas que ça. Non, non, il y avait un prix.
Oui.
Qui avait été proposé par le roi d'Espagne pour résoudre le problème des longitudes.
Quesaco.
Quesaco. Alors, comme tu sais, les Espagnols, à l'époque, ils traversaient pas mal l'océan Atlantique et d'autres mers pour aller dans leurs colonies un peu partout.
Et oui.
Et quand on est en mer, il y a un problème qui est très important, c'est de savoir où on est, faire le point.
C'est sûr.
Alors, pour ça, il faut connaître sa latitude et sa longitude. La latitude, donc dans le sens nord-sud, ça, c'est pas trop un problème. Si on observe la hauteur du soleil à midi, c'est-à-dire au moment où il est le plus haut,
ouais.
On regarde l'angle au-dessus de l'horizon et pratiquement ça donne la latitude. Alors il faut tenir compte de la saison.
Moins l'ombre est longue, plus on est près de l'équateur en gros.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Avec des corrections qu'on sait faire depuis très longtemps. Ça, c'est pas un problème. Par contre, la longitude dans le sens est-ouest,
ah.
Là c'est beaucoup plus compliqué parce que le soleil il tourne et il passe au-dessus de chaque point à un moment ou à un autre. Et en fait, le seul moyen de savoir où on est par rapport à une référence donnée, hein, disons. À combien de kilomètres à l'ouest de Paris on est, ou combien de degrés à l'ouest de Paris on est, le seul moyen de savoir, c'est de se fier au décalage horaire.
Bah oui, parce que si tu es à l'ouest de Paris, le moment où il est midi au soleil à Paris, c'est pas le même moment où le soleil passe ensuite au-dessus de toi sur ton bateau.
Et donc, si tu veux savoir exactement où tu es, il faudrait savoir, au moment où le soleil passe au-dessus de toi, quelle heure il est à Paris. Par exemple, si tu sais qu'il est 15h au moment où il est 12h chez toi, eh ben, c'est que le soleil a mis 3 heures à passer de l'un à l'autre. Comme il fait le tour de la Terre en 24 heures, c'est donc que tu es à 1/8 de tour de Paris. Et ça, on peut le convertir en degrés ou en kilomètres. Ça va faire 45 degrés en l'occurrence. Bon. Donc tout le problème, en fait, c'est de savoir, au moment où tu connais l'heure locale là où tu es sur ton bateau, quelle heure il est à Paris à ce moment-là.
D'accord.
Alors maintenant, ce n'est pas compliqué. Hein. On a des ondes radio qui voyagent presque instantanément. Donc, tu écoutes Radio Paris et au moment où ils font les bips, tu sais qu'il est 13h à Paris. Il
okay.
Est... Bon, ça, c'est facile. À l'époque, évidemment, il n'y a pas d'ondes radio. Donc, le moyen qui paraîtrait naturel, c'est de partir au début de ton voyage avec une montre réglée à l'heure de Paris.
Ah ben voilà.
Et ensuite, pendant tout ton voyage, tu n'y touches surtout pas. Elle continue à te donner l'heure de Paris. Et donc, quand tu vois le soleil passer au-dessus de toi, tu dis, tiens, il est 15h à Paris.
D'accord.
Mais alors, à l'époque, faire une montre qui garde l'heure comme ça pendant des semaines et des mois, et en plus sur un bateau qui bouge dans tous les sens, c'est pas du tout évident. Ben, on n'a pas de montre à ressort, hein, ça n'existe pas encore, il n'y a que des pendules à balancier.
Ah oui.
Tu sais, les grandes pendules.
Tic-tac, tic-tac, ok.
D'ailleurs, même Galilée, il a travaillé là-dessus, hein. Il a travaillé sur le pendule et il a fait une horloge à balancier.
Ouais.
Il a eu un problème avec Huygens, qui est officiellement le premier à l'avoir inventé. Bon,
d'accord.
On ne va pas rentrer dans tout ça. Mais c'est pour dire qu'il connaissait bien le problème et il savait très bien que ça ne marchait pas sur les bateaux.
D'accord.
Et donc, le roi d'Espagne a proposé un prix, en gros, pour la personne qui arrivera à trouver une montre ou une horloge qui garde l'heure exacte pendant des semaines ou des mois sur un bateau. Mais ça, en fait, c'est beaucoup trop compliqué pour la technique de l'époque. On n'y arrivera que à la fin du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les chronomètres de marine. En fait, tout le travail de l'horlogerie pendant des siècles, ça a été essentiellement motivé par la marine.
Ah oui, pour les navigateurs.
Dans la vie de tous les jours, les horloges, ça suffisait, mais...
Et donc Galilée, son idée, c'est d'avoir recours à l'astronomie à la place?
Oui, exactement. Il a une idée qui n'est pas bête du tout. Si les astronomes ont prévu qu'il allait se produire quelque chose, un phénomène, quelque chose qui apparaît ou qui disparaît dans le ciel, à une certaine heure, à l'Observatoire de Paris.
Ouais.
Si toi, tu observes cette même chose à une certaine heure locale,
oui.
Ben, tu sais exactement quelle heure il est à Paris à ce moment-là.
Puisque, ah oui, puisque donc, les astronomes... le décalage. Même
donc chose. Tu as le décalage et donc tu as ta position. Et Galilée, qui n'est pas bête du tout... Il observe les satellites de Jupiter, il voit par exemple le satellite Io le plus proche de Jupiter, il fait un tour en 42 heures. Donc ça veut dire que un peu moins de tous les deux jours, on va le voir passer derrière ou passer devant Jupiter. Et en plus, il se trouve qu'à chaque tour, il passe vraiment dans l'ombre de Jupiter.
Ah, ça fait une éclipse en fait.
Oui, une éclipse de Io. Alors, les autres satellites, ça leur arrive aussi, mais pas forcément à chaque tour, parce qu'ils sont plus loin. Mais celui-là, ça fait vraiment un très bon repère.
Parce que tu le vois entrer dans l'ombre et puis sortir de l'ombre.
Alors en fait, suivant le côté où on est, tu vois soit entrer dans l'ombre, soit sortir. On ne voit pas les deux dans le même tour.
D'accord.
Mais peu importe, ça fait un repère bien précis parce que vraiment, on voit ce petit point lumineux qui va disparaître ou bien en regardant au bon endroit, pouf, on voit un point lumineux qui apparaît.
D'accord.
Donc Galilée se dit, bah, c'est pas compliqué, il suffit que je les observe assez longtemps pour bien comprendre ce mouvement, faire des tables. Parce que ça dépend aussi de la période de l'année, hein. Comme la Terre et Jupiter tournent tous les deux autour du Soleil, il y a des moments où on va être d'un côté, de l'autre. Ce n'est pas simplement dire toutes les 42 heures, ça va se produire. Il y a des corrections à faire.
Okay.
Bon, mais ça, c'est le genre de truc que les astronomes savent faire à l'époque. Mmh. Et les navigateurs emporteront ces tables, ils feront les observations sur leur bateau et ils sauront exactement où ils sont. Et j'aurai le prix du roi d'Espagne.
Eh ben oui, pas bête le gars.
Le gars à Lillet, oui.
Okay, d'accord.
Bon, on coupera au montage. Hein. Bon. Alors, il n'y a qu'un seul problème, c'est que ça ne marche pas.
Ah, zut. Léger problème.
Léger problème. La difficulté, en fait, c'est de faire ces observations quand tu es sur un bateau.
Ah.
Alors déjà, il y a le fait que Jupiter, on ne le voit pas tout le temps. Mmh. Il y a des moments où il est du côté du Soleil, il est dans le ciel en plein jour, on ne peut pas le voir.
Certes.
Donc, c'est une méthode qui marche 6, 7, 8 mois par an, mais pas toute l'année.
Ouais.
Ça peut déjà être un problème. Ensuite, il y a des moments où il est, par exemple, il est très près de l'horizon, ça va être difficile à observer. Ou tout bêtement, il y a des nuages.
Ah oui, il faut qu'il fasse beau pour pouvoir le voir.
Ben, c'est mieux. Alors évidemment, si tu as besoin de faire le point et qu'il faut attendre qu'il fasse beau, ça peut prendre 2-3 jours suivant là où tu es, ça peut être gênant. Bon. Et puis, même dans les bonnes conditions, quand on peut observer Jupiter, c'est quand même pas facile avec une lunette sur un bateau.
Ah ben oui, ton bateau, il bouge.
Donc, pour arriver à pointer, c'est quand même des tout petits points lumineux. Hein, ce n'est pas des gros objets qu'on regarde. Ils ont essayé. Alors, Galilée a essayé, par exemple, en fixant la lunette sur un casque pour qu'on arrive à garder la tête bien dans la bonne direction. Ou alors, il va faire des montages en mettant ça sur un bain d'huile pour que ça reste toujours horizontal quand le bateau bouge.
Ouais.
Non, mais c'est un inventeur. Hein, ce n'est pas qu'un physicien, Galilée. Il a plein d'idées. Mais non, finalement, il n'a pas eu le prix parce que ça ne s'est jamais passé dans la pratique.
D'accord. Ah, zut alors.
Enfin, l'idée était bonne quand même. Mmh. Simplement, ça ne marche pas sur un bateau, mais à terre, ça marche très bien.
Ah ben oui, quand tu peux prendre ton temps, te poser.
Donc si tu veux faire, mettons, une carte de France précise, bah, tu veux connaître la longitude de Brest par rapport à Paris, et bah, tu t'installes à Brest, tu mets ta lunette, tu restes aussi longtemps qu'il faut, tu attends le jour où il fait beau, parce que Brest, il ne bouge pas comme un bateau.
C'est vrai, jusqu'à nouvel ordre.
Tu refais ta mesure 10 fois, si tu veux, pour être plus précis en faisant la moyenne de tes observations. Et c'est la méthode qui sera vraiment utilisée pour faire les premières bonnes cartes. Bah, en France, la carte qui est très connue, c'est celle de Cassini. Jean-Dominique Cassini, qui était l'astronome sous Louis XIV, et qui a fait la première carte de France, qui sert toujours de référence maintenant pour les historiens. On dit, ah oui, cette ville-là, elle est sur la carte de Cassini ou elle n'est pas sur la carte de Cassini. Mmh. Et d'ailleurs, ça lui a permis de rectifier des positions qu'on avait estimées avant qui étaient fausses. Et Louis XIV n'était pas très content parce qu'on lui a réduit la taille de son royaume. Il a dit qu'il avait perdu plus de territoire à cause des astronomes qu'à cause de ses ennemis dans la guerre.
Okay. Ah oui, donc finalement, la méthode de Galilée, ça avait quand même une utilité pratique réelle.
Tout à fait. Et en plus, ça a eu aussi une retombée alors là, plus scientifique, théorique, qui était aussi importante. Parce que donc, Cassini, pour pouvoir faire ses cartes, il a fait des tables les meilleures qu'il pouvait pour essayer de prédire exactement l'heure où l'Io allait apparaître et disparaître.
Ouais.
Et malheureusement, il restait toujours un décalage. Il prédisait que tel jour, l'Io apparaîtrait à telle heure et puis ça apparaissait un peu avant ou un peu après.
Ah.
Ça, c'était un peu embêtant. Mmh. Et la solution a été trouvée par un jeune astronome danois qui s'appelait Römer, qui était venu travailler avec Cassini à l'Observatoire de Paris. Et Römer a compilé ses erreurs de façon précise et il s'est aperçu que ce n'était pas aléatoire, qu'on trouvait toujours que Io apparaissait plus tôt que prévu à certaines périodes, qui étaient les moments où la Terre, dans son déplacement autour du Soleil, allait vers Jupiter, se rapprochait de Jupiter.
Ouais.
Et par contre, quand la Terre s'éloigne de Jupiter, à ce moment-là, Io apparaît plus tard que prévu.
Ah.
Les erreurs étaient systématiques et donc il devait y avoir une raison.
D'accord.
Et il a compris, parce qu'il n'était pas bête, que cette raison, en fait, c'était lié à la vitesse de la lumière.
D'accord. Bon,
après, c'est très intéressant, l'histoire de la vitesse de la lumière. On fera un épisode là-dessus, si tu veux.
Ok, pas de problème. Et donc, ce que tu me disais, c'est que Io, c'est la plus rapide donc, de toutes les lunes galiléennes, avec ses 42 heures-là.
Oui. Europe, la deuxième, elle met 2 fois plus de temps à faire le tour de Jupiter.
Ah, donc ça fait à peu près 4 jours, quoi.
Oui, et même plus précisément, comme Io met 42 heures et quelques, Europe fait 2 fois plus, donc 84 heures et quelques.
Elles sont... Ah, c'est exactement 2 fois plus.
Exactement, elles sont synchronisées.
Ah bon ?
C'est pas un hasard, évidemment. C'est ce qu'on appelle une résonance.
Ouais.
C'est lié à la gravitation, en fait. Hein. Elles sont toutes les deux liées par la gravité de Jupiter, évidemment, c'est pour ça qu'elles tournent autour. Mais entre elles, elles s'attirent un petit peu aussi.
Ah !
À chaque fois que Io fait 2 tours, Europe fait 1 tour. Donc, elles vont se retrouver toutes les deux au même point de leur orbite. Et ça va les maintenir à cet endroit-là. Si à un moment, Io voulait prendre un petit peu d'avance ou un petit peu de retard, et bien, au tour suivant, l'Europe va l'attirer vers l'avant ou vers l'arrière pour la ramener à cet endroit-là, et vice-versa. Donc finalement, c'est une situation assez stable. Et là, c'est d'autant plus stable qu'il y en a une troisième, Ganymède, qui est aussi en résonance, avec encore un facteur 2 par rapport à l'Europe.
Ah, tu veux dire que si Io fait des noirs, Europe fait des blanches et Ganymède fait des rondes, en fait?
Oui, enfin, elles font toutes des rondes autour de Jupiter, hein, c'est tout.
Ok, d'accord.
Mais oui, en fait, si tu veux, quand Io fait 4 tours, Europe fait 2 tours, Ganymède fait 1 tour,
ouais.
Et donc elles se retrouvent au même endroit à chaque fois. Alors par contre, elles ne sont jamais toutes les trois du même côté en même temps. Si tu prends un moment où Io et Europe sont du même côté de Jupiter, on dit elles sont en conjonction,
ouais.
À ce moment-là, Ganymède est à un quart de tour.
Ah, zut.
Donc, un jour de Io plus tard, Io est revenu au même endroit.
Ouais.
Mais Europe a fait un demi-tour, elle est à l'opposé. Et Ganymède, qui a fait son quart de tour, bah, il se retrouve aussi à l'opposé.
Ah oui, d'accord.
Donc cette fois, c'est Europe et Ganymède qui sont en conjonction, et Io qui est de l'autre côté.
Et c'est jamais les trois.
Et ça recommence comme ça. Voilà. Et à chaque fois, tu en as deux qui sont en conjonction, la troisième est ailleurs.
D'accord.
Mais elle reste parfaitement synchronisée.
Et alors la quatrième, Callisto, elle est encore deux fois plus lente?
Non, elle n'est pas synchronisée parce qu'elle est trop loin, en fait. Elle est nettement plus lente. L'interaction gravitationnelle est trop faible pour arriver à la synchroniser.
D'accord.
Pour qu'elle se retrouve à faire encore un tour quand Ganymède fait deux tours, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui vienne la freiner et la faire descendre sur son orbite pour qu'elle se rapproche, quoi.
Ah oui, et c'est ça ce qui s'est passé alors à l'origine, elles ont bougé, elles ont changé d'orbite?
Oui, alors si on essaie de comprendre comment elles se sont formées, ces lunes galiléennes, bon, il y a différents modèles, mais disons celui qui domine, c'est qu'elles se seraient formées en même temps que Jupiter et le reste du système solaire, il y a 4 milliards et demi d'années. Tu sais, à l'origine, il y avait un grand nuage de gaz et de poussière. Et puis, il y a des endroits où ils se sont concentrés, regroupés. C'est ce qui a formé les planètes.
Ouais.
Et donc, quand Jupiter s'est formé, ben, autour de lui, il y avait encore une bonne partie de ce nuage avec des morceaux de glace, de roche, tout ça. Ils commençaient à s'accumuler. Ça pouvait former des embryons de lune à différents endroits. Et puis, quand une lune assez grosse commençait à se former, elle était freinée par le frottement au milieu de ces gaz et tout ça. Elle avait tendance à descendre de plus en plus. Et à finir par se rapprocher trop de Jupiter.
Ah, et du coup, il y en a certains qui seraient tombés, alors?
Alors, tombés, pas directement, mais tu te rappelles la limite de Roche, on l'avait vu dans l'épisode sur les anneaux?
Ah oui, c'est quand il y a des déformations à cause de l'effet des marées. Il y a un côté qui est très, très attiré, l'autre qui est moins attiré, du coup, ça se casse?
C'est ça. Et donc, les premières lunes qui se seraient formées, elles se seraient trop rapprochées de Jupiter, seraient cassées en morceaux, et alors il y a certainement des morceaux qui sont tombés dans Jupiter et qui ont été absorbés, d'autres qui sont repartis, qui ont formé des anneaux à différents moments. Donc il y a eu une histoire un petit peu chaotique.
Ouais.
On estime que probablement il y a eu au moins 5 lunes déjà assez grosses qui ont dû se former et puis descendre petit à petit cette espèce de tapis roulant vers Jupiter,
ouais.
Et se casser la figure. Et
jusqu'au
moment où, alors Io, donc qui serait dans cette hypothèse la plus ancienne, hein, puisque c'est la plus proche, serait arrivé à un endroit où le nuage avait été suffisamment consommé, il était plus tellement dense, et donc il freinait plus trop sa rotation, elle arrivait à se maintenir assez longtemps, pour qu'il y en ait une autre qui se forme, Europe en l'occurrence, et là du coup l'interaction des deux a stabilisé.
Ah, en fait, c'est l'une qui empêche l'autre de tomber.
Une fois qu'elles sont en résonance, qu'elles sont au bon endroit sur leurs orbites, ben, elles se maintiennent là.
D'accord.
Et elles peuvent rester. Et avec Ganymède en plus, là, ça devient franchement stable.
Béton, là.
D'autant qu'à ce stade-là, le nuage était quasiment vidé de sa substance et qu'il n'y avait plus rien qui freinait.
D'accord.
Donc voilà, dans cette hypothèse, les 4 lunes galiléennes, en fait, ce seraient les 4 dernières d'une assez longue série.
Ah oui, donc on a vraiment un modèle qui explique qu'elles se sont formées toutes de la même façon à partir de ce même nuage-là.
Ce qui explique qu'en un sens, elles se ressemblent pas mal. Hein. Elles ont toutes des tailles à peu près du même ordre de grandeur. Hein.
Ah, quel genre de taille?
Entre 3000 et 5000 km de diamètre. C'est à peu près la taille de notre Lune, si tu veux.
Ah ouais, d'accord.
C'est des gros satellites, mais...
Donc c'est comme si on avait pris notre Lune là, de la Terre et qu'on l'avait clonée en 4 exemplaires.
Clonée, non, t'exagères. Elles ont quand même des différences assez significatives. Hein. Déjà, il suffit de les regarder. L'état de la surface n'est pas du tout le même. Même si au départ, elles avaient toutes de la glace et des roches, sur Io, il n'y a plus de glace, sur les autres, il y en a encore. Elles ont des couleurs différentes. Et puis, la structure interne, d'après ce qu'on arrive à en savoir, elle est quand même assez différente aussi sur chacune.
Ah, et pourquoi alors, si elles se sont toutes formées de la même façon?
Mais parce qu'elles se sont arrêtées à des distances très différentes de Jupiter. Et l'influence de Jupiter, des forces de marée, ça, c'est vraiment essentiel pour l'évolution par la suite.
Ah, attends. Tout ça, tu vas me l'expliquer plus tard. Déjà, je vais quand même essayer de faire mon premier couplet.
Ah oui, c'est une bonne idée. C'est vrai que je me laisse entraîner.
Fly me to the Galilean moons of Jupiter.
Fais-moi voler jusqu'aux lunes galiléennes de Jupiter.
Let me see what really makes them spin around and matter.
Fais-moi voir ce qui les fait vraiment tourner et se balader.
There are birds who look pretty easy.
Leurs orbites ont l'air plutôt synchronisées.
And by size, they're not so distinct.
Et par la taille, elles ne se distinguent pas tellement.
But chromatically, structurally, they're very heavy.
Mais du point de vue de la couleur et de la structure, elles varient beaucoup. Ben oui, c'est pas mal.
Donc là, tu vois, j'utilise ma mélodie à moi. Hein. J'ai pas du tout repris Fly Me to the Moon.
Bah alors, c'est plus du tout une modification de la chanson d'origine.
Si. Déjà, moi, j'utilise l'anatole, tout comme lui. Hein. J'utilise le même enchaînement de quatre accords. Donc, tu te souviens, La mineur, Ré mineur, Sol, Do. Si tu suis la basse, La, Ré, Sol, Do. Et lui, ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il continue. Il fait Fa, Si, Mi.
Il continue à monter et descendre des mêmes intervalles à chaque fois.
C'est ça. On peut dire qu'il prolonge son anatole, sauf que la, si, mi, la, c'est pas vraiment un anatole véritable parce que ça aboutit sur l'accord de la mineur, alors qu'un anatole authentique, 100% pur saucisson, ça se termine toujours sur un accord majeur. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il continue ce petit enchaînement en utilisant tout d'un coup, non pas les notes de la gamme de Do majeur, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais les notes de la gamme de La mineur.
La mineur, donc ça commence sur le La.
La, Ré. Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et là, il y a même un Sol dièse.
Ah, donc c'est presque les mêmes notes, sauf un dièse.
Voilà, on rajoute ce petit Sol dièse, c'est ce qui donne ce côté expressif. D'ailleurs, lui, il l'utilise même dans sa mélodie, hein, quand il fait La, Si, Fa, Mi, Mi, Fa, La, Sol.
Un petit passage mineur là qui est
c'est
un peu
ça.
Plus.
Donc finalement, il a changé de gamme juste pendant un instant. C'est ce qu'on appelle un emprunt. C'est-à-dire, s'il l'avait fait pendant plus longtemps, qu'il l'avait vraiment affirmé, qu'on avait vraiment changé de note polarisante.
De note comment?
C'est-à-dire la note vers laquelle toutes les notes de la mélodie, tous les accords et tout ont envie d'aller. Dans ce cas-là, on n'aurait pas parlé d'emprunt, on aurait vraiment parlé de modulation.
Ah, une modulation, c'est quand on change de tonalité carrément
C'est ça, que tu l'affirmes vraiment, que tu t'installes carrément dans une nouvelle tonalité. Lui, c'est pas ce qu'il fait, il fait juste un tout petit emprunt, et puis franchement, c'est un emprunt qui est fastoche, hein, parce que la gamme de Do majeur et la gamme de La mineur, on dit qu'elles sont relatives ensemble. C'est-à-dire que La, c'est le sixième degré par rapport à Do, hein,
oui.
Et inversement, Do, quand tu pars de La, c'est le
deuxième.
C'est le troisième, merci beaucoup. La, Si, Do.
Oui.
Ces deux tonalités fonctionnent vraiment ensemble. On dit qu'elles sont relatives l'une de l'autre. Tu as une tonalité majeure et une tonalité mineure. C'est très facile de naviguer de l'une à l'autre et retour.
Parce qu'il n'y a qu'une seule note qui change dans les deux gammes.
Exactement. Les musiciens disent que quand tu fais des modulations, tu peux faire des modulations vers une tonalité plus ou moins voisine ou plus ou moins éloignée. Et Do majeur, La mineur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus voisin, quoi. Elles sont relatives ensemble.
Donc là, il reste toujours entre des tonalités voisines et il ne s'écarte pas beaucoup.
Voilà, et puis comme je te dis, c'est juste un emprunt. Mais moi, je n'ai pas fait pareil.
Ah ah.
Moi, j'ai fait une modulation. Donc j'étais en Do majeur comme lui, je suis parti pareil que lui. Et je suis arrivé en Mi bémol majeur.
Alors là, c'est complètement différent alors.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle une tonalité éloignée. Parce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si je fais la gamme de Mi bémol majeur, ça fait Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de touches noires là. Hein.
Oui.
Il y a pas mal de notes différentes.
Mais tu peux passer de l'une à l'autre comme ça, ça se fait?
Faut le faire passer, mais moi j'utilise une astuce. C'est que, donc je te disais, en partant de Do majeur, tu peux aller vers la tonalité de La mineur, qui est relative.
Oui.
Mais tu pourrais aussi aller vers une autre tonalité mineure, qui est celle de Do mineur.
Ah, tu passes de Do majeur à Do mineur.
C'est ça, ça c'est ce qu'on appelle l'homonymie. Hein, deux tonalités homonymes, elles ont le même nom.
Alors, entre l'accord de Do majeur et de Do mineur, il y a quoi comme différence?
Entre l'accord parfait de Do majeur, Do, Mi, Sol, et l'accord parfait de Do mineur, Do, Mi bémol, Sol, il n'y a qu'une seule note qui change, c'est le Mi.
Oui.
Mais ce Mi bémol, c'est plus que juste une note, parce que là, tu me parles juste d'un accord, mais toute la gamme dont je te parlais, la gamme de Mi bémol majeur, à l'intérieur, je vais me servir de ces notes pour fabriquer d'autres accords. Je peux faire n'importe quel accord. Je peux faire le premier degré, c'est Mi bémol. Mais je peux faire Fa avec le deuxième degré, Sol le troisième, etc. Et le sixième degré, c'est qui?
Le Do.
Et voilà. Et du coup, si je fais mon fameux 6, 2, 5, 1, tu te dis, c'est l'anatole.
Oui.
Bah, du coup, ça va être Do mineur. C'est plus mon premier degré, hein. C'est vraiment le sixième. Sixième degré. Deuxième degré, c'est Fa. Cinquième degré, c'est Si bémol. Et enfin, Mi bémol majeur, mon premier degré. Là, j'ai vraiment fait une modulation, je me suis installé dans une nouvelle tonalité.
Autrement dit, tu étais en Do majeur, tu voulais introduire un Mi bémol pour pouvoir passer dans la tonalité de Mi bémol majeur. Et pour ça, tu as utilisé l'astuce qu'il y a un Mi dans l'accord de Do.
C'est ça. Je me suis servi de cette minorisation. J'ai rendu mon accord de Do majeur, je l'ai rendu mineur.
Tu as changé la deuxième note de l'accord et du coup, puisqu'on avait entendu cette note, à partir de là, tu peux rebondir dessus et faire ton anatole.
C'est ça. Dès que j'ai un accord mineur, mon accord mineur, il peut me servir comme d'un sixième degré pour après faire 6, 2, 5, 1. Donc du coup, si j'enchaîne tout ça, depuis le début, j'ai eu en Do majeur, j'ai eu La, Ré, Sol, Do, c'est-à-dire 6, 2, 5, 1. Ah, mais il passe en mineur. 6, 2, 5, 1. Et le tour est joué.
Et donc maintenant, tu es passé en Mi bémol majeur et tu vas continuer la suite du morceau en Mi bémol majeur.
Je pourrais, mais ça ne m'intéresse pas de m'installer et puis de plus bouger, sinon on s'ennuie. En fait, après, je fais une autre modulation, toujours avec ces enchaînements de type 6, 2, 5, 1 ou 2, 5, 1. Là, je vais le faire cette fois pour arriver en Si majeur. Donc, j'étais parti de Do, hein.
Oui.
Je me suis retrouvé en Mi bémol majeur. Après, j'arrive en Si majeur. Encore une tonalité complètement éloignée, qui n'a rien à voir. Et puis après, j'ai refait un enchaînement qui se termine cette fois en Mi majeur. Donc tu te rends compte, j'ai enchaîné trois modulations, quatre tonalités différentes en quelques mesures, en un seul couplet.
Mais alors comme ça, en enchaînant les modulations, tu peux passer de n'importe quelle tonalité à n'importe quelle autre, comme tu veux ?
Quasiment. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui travaille pour moi, c'est le système tonal lui-même, c'est-à-dire le langage harmonique auquel on est habitué en musique occidentale depuis des siècles et des siècles.
Ce qui fait que quand on entend certaines notes, on s'attend à en entendre d'autres.
Tout à fait. Hein, quand tu joues l'exemple facile, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si.
Je veux le Do,
voilà. Donc, il y a vraiment des notes qui sont attirées par d'autres. Hein, c'est un peu comme les lois de Newton. Il y a constamment ce que j'appelle moi une polarisation, c'est-à-dire une note vers laquelle, en l'occurrence le Do dans mon exemple, une note vers laquelle toutes les autres sont attirées. Et du coup, ça crée une habitude d'écoute. Quand tu as vraiment l'habitude de baigner dans cette musique et tout ce que tu entends à la radio, quand tu vas faire tes courses, quand tu es au restaurant, quand tu vas voir un film, en général, c'est toujours de la musique tonale. Que ça soit de la musique classique ou de la variété, ça change pas. Et donc du coup, même s'il y a un moment, je fais un accord qui est un tout petit peu inattendu, il suffit que derrière, je fasse mon petit enchaînement 2-5-1 ou 6-2-5-1 pour qu'on se dise « Ah bon, c'est bon, je comprends, on est soulagé. »
Ah oui, donc quand tu fais des modulations, ça peut paraître bizarre, mais du moment que tu retermines sur la bonne tonalité, on sera tranquille.
Voilà, il faut prendre le temps de s'installer grâce à un enchaînement d'accords déjà tout près de type anatole.
Et ça, tu vas l'utiliser beaucoup alors dans ta chanson ?
Tu sais, je suis bien tenté de me lancer une espèce de défi. Je vais peut-être essayer, au fil de la chanson, de passer au moins une fois par chacune de toutes les tonalités majeures possibles, en faisant à chaque fois cet enchaînement 2-5-1 ou 6-2-5-1 si j'ai le temps.
Et dans toutes les tonalités majeures, il y en a autant que de notes dans la gamme, là, ça fait
combien ?
Si tu comptes avec les dièses et les bémols, ça en fait 12.
C'est ça. Hein, donc Do majeur, Do dièse majeur, Ré majeur, Mi bémol majeur, voilà, y en a plein.
Tu vas passer par 12 tonalités différentes dans une chanson.
Tu te rends compte, là, rien que dans un couplet, j'en ai déjà fait 4, donc j'ai une bonne chance.
C'est vrai, il suffit de faire 3 couplets et on est bon. Mais en fait, tu m'as dit que tu pouvais passer à peu près de n'importe quelle tonalité à n'importe quelle autre, donc c'est pas vraiment difficile de les faire toutes.
Tu verras qu'il y a quand même quelques petites subtilités, quelques petits mécanismes dont on peut se servir, des stratégies diverses et tout. Mais on verra ça. Et donc, avec tous ces couplets, on va pouvoir avoir le temps de se pencher sur chacune de ces lunes quand même. Alors, tu me disais que la première, c'est Io.
La première en partant de Jupiter, oui. Io, elle fait 3 600 km de diamètre, donc c'est juste un petit peu plus que notre Lune. Elle est à 400 000 km de Jupiter, donc c'est un petit peu plus que la Lune par rapport à la Terre. Alors il y a quand même une grosse différence par rapport à la Lune. La Lune, elle met combien de temps à faire le tour de la Terre?
Bah, un mois en gros.
Oui, 29 jours. Et Io, je t'ai dit qu'elle mettait combien pour faire le tour de Jupiter?
Ah, 42 heures.
Oui, moins de 2 jours.
Hein?
Ça fait une très grosse différence. Alors, comment ça se fait que Io peut être tellement plus rapide par rapport à la Lune?
Bah, elle doit être plus proche, du coup, elle met moins longtemps à faire le tour.
Mais non, je t'ai dit qu'elle était à 400 000 km, c'est pratiquement comme la Lune, même un petit peu plus.
Ah, alors du coup, ça veut dire qu'elle va réellement plus vite, en fait. C'est sa vitesse qui est différente.
Clairement. Qu'est-ce qui peut faire qu'elle aille beaucoup plus vite sur son orbite?
Ah, oui, parce qu'elle tourne autour d'un truc plus gros. Donc, du coup, elle est plus attirée. C'est comme si elle tombait plus vite vers le truc.
Si tu veux, oui. Enfin, en fait, elle ne tombe pas parce que la force centrifuge compense la gravité. Donc, comme Jupiter est à peu près 300 fois plus gros que la Terre, il faut que la force centrifuge soit 300 fois plus grande pour Io que pour la Lune.
Et donc, il
Et
faut qu'elle
donc,
tourne beaucoup, beaucoup plus vite.
eh oui,
D'accord.
quand tu prends un virage en voiture, plus tu vas vite, plus la force centrifuge est grande.
D'accord. Ok.
Hein. Et puis, un autre point commun entre Io et la Lune, c'est le verrouillage gravitationnel. Ça te rappelle quelque chose?
Ah ben oui, c'est-à-dire que la Lune, elle nous montre toujours la même face vers nous.
Exactement, à cause des effets de marée, de l'attraction différente de la Terre sur les différents points qui fait que ça l'a bloqué dans cette position-là.
Et donc Io, c'est pareil.
C'est pareil, d'ailleurs tous les satellites de Jupiter, hein, les gros comme les petits, l'attraction de Jupiter est tellement forte qu'il a réussi à les verrouiller toutes. Donc quand tu es sur Jupiter et que tu regardes Io, tu vois toujours la même face.
D'accord.
Et donc ça veut dire que si tu vas sur Io et que tu regardes dans le ciel, qu'est-ce que tu verras?
Je vais voir Jupiter, mais à condition que je sois sur la bonne face.
Si tu es sur la bonne face, tu verras Jupiter toujours au même endroit dans le ciel. Par exemple, si tu es au point qui est juste à la verticale de Jupiter, ben tu verras Jupiter au-dessus de ta tête en permanence, nuit et jour, tu auras toujours ce machin au-dessus de toi.
Mais c'est juste un petit point ou c'est...
Non, non, c'est énorme. Si tu veux, la taille, c'est un ballon de football tenu à bout de bras.
D'accord.
T'imagines un truc comme ça dans le ciel? Tu
Ouais,
vois vraiment que ça, quoi.
tu risques pas de le louper, d'accord.
Alors, tu risques pas de le louper, attention, parce que il fait pas de lumière. Il est éclairé par le soleil. Donc tu peux être du côté éclairé ou du côté sombre.
Ah, tu veux dire que tu vois des phases de Jupiter?
Exactement. Toutes les 42 heures, hein, ça va vite, quand à chaque fois que tu fais un tour de Jupiter, tu vas voir un premier croissant de Jupiter, un premier quartier, un Jupiter gibbeux, tu te
D'accord.
rappelles, la Lune avec une bosse,
Ouais,
un plein Jupiter, un dernier quartier, et
ouais.
puis à un moment tu ne verras plus parce qu'il est tout noir.
C'est le nouveau Jupiter.
C'est le nouveau Jupiter. Je
D'accord.
ne sais pas si les habitants d'Io y appellent comme ça, mais c'est exactement l'équivalent.
Les Ioniens.
Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le ciel d'Io? Ben, on voit le Soleil, évidemment.
Ah oui, bah oui, forcément.
Forcément. Sauf que, on est quand même 5 fois plus loin du Soleil que sur Terre.
Ah, donc il est beaucoup plus petit.
Ben, il est 5 fois plus petit, tout bêtement. Alors, on le distingue bien que ce n'est pas juste un point lumineux comme une étoile. Hein. Il a une certaine taille, mais l'équivalent, ce serait une pièce de 1 euro que tu regardes à 13 mètres.
Ouais, c'est quand même petit petit.
C'est quand même très petit. Et du coup, il ne chauffe pas beaucoup non plus.
Il chauffe 5 fois moins.
Ils sont 25 fois moins, c'est
Ah.
ça dépend du carré de la distance.
Du coup, glac-glac-glac, quoi.
Gla, gla, gla. En fait, dans tout le système jovien, hein, toute cette région de l'espace, il fait aux alentours de moins 150 degrés.
Ah oui, ok.
Alors après, ça va dépendre des endroits, il y a des histoires de climat. Bon, ça, disons entre moins 100 et moins 200 degrés, à
Ouais.
peu près partout.
Il te faut ta petite laine, quoi.
Une bonne laine, ouais. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le soleil, bon, chaque jour, tu vas le voir se lever et se coucher, bien sûr, mais un moment dans son orbite, à chaque jour, il passera derrière Jupiter.
Ah oui, il y a la fameuse éclipse.
Oui, quand on dit que Io passe dans l'ombre de Jupiter, c'est une autre façon de dire que depuis Io, on voit le Soleil qui passe derrière Jupiter.
D'accord.
Bon, et puis à ton avis, qu'est-ce qu'on voit d'autre si on regarde dans le ciel de Io?
Ah bah tu vas peut-être voir tes copines là, les autres galiléennes, le club.
Mais oui, tout à fait. Alors, point de vue taille, bah, c'est à peu près comparable à la Lune ici vue de la Terre. Europe, qui est la plus proche, elle est un peu plus grosse. Donc,
D'accord.
on la voit bien, il n'y a pas de problème. Enfin, ça dépend où elle est, puisque quand on est du même côté de Jupiter, donc au plus près l'un de l'autre, elle fait juste un peu plus que notre Lune sur Terre. Et puis quand elle est à l'opposé, de l'autre côté de Jupiter par rapport à moi, ben là, elle est largement 4 fois plus petite.
Oui, enfin, s'il y a Jupiter entre vous, tu la verras pas du tout, de toute façon.
Non, évidemment, mais quand elle est, disons, près de l'opposé,
D'accord.
à ce moment-là, donc elle est nettement plus petite, mais encore bien visible. Hein, un truc qui est 4 fois plus petit que notre Lune, ça se voit encore facilement à l'œil nu.
D'accord. Et Ganymède, alors?
Alors Ganymède, elle est encore plus loin, donc un peu plus petite que la Lune au plus près, et à peu près deux fois plus petite au plus loin.
D'accord. Et Callisto, tant que tu y es ?
Et Callisto, encore plus loin, donc nettement plus petite, mais encore bien visible à l'œil nu. Puis elle, ça varie moins, comme elle est plus loin, il y a peu de variations de taille.
Et donc toutes ces lunes, même si elles ne tombent pas directement autour de moi, je les vois quand même se coucher et se lever comme notre lune à nous ?
Ah bah, tu les vois se lever à l'est, passer au-dessus de toi, se coucher à l'ouest, mais simplement, il y a la combinaison de ton mouvement et de leur mouvement à elles. La Lune, justement,
oui.
Sur une période de 29 jours,
okay.
Tu regardes les étoiles, tu vas les voir se lever et se coucher 29 fois.
D'accord.
Mais la Lune, chaque jour, elle se décale un petit peu,
ouais.
À cause de son mouvement à elle. Et donc, finalement, au bout des 29 jours, tu l'auras vu se lever et se coucher que 28 fois.
Ah, ben bah oui, il y a un décalage.
Il y a un décalage. Donc, avec mes lunes galiléennes, ça va faire la même chose. Mais le décalage, il va être beaucoup plus grand. Puisque, prenons une période, par exemple, de 4 jours de Io. Je suis sur Io. En 4 jours, je vois le soleil et les étoiles se lever et se coucher 4 fois.
D'accord.
C'est la définition d'un jour. Par contre, Europe, pendant ce temps-là, rappelle-toi, elle aura fait
2 tours.
Donc, en fait, je la verrais faire 2 tours de moins. Je la vois se lever et se coucher que 2 fois.
Ah oui, ok.
Et Ganymède, dans le même temps, elle aura fait...
Donc, elle aura fait qu'un seul tour, elle.
Oui, puisqu'elle va 4 fois moins vite. Et donc, je la verrai se lever une fois de moins, et donc 3 fois.
Ah oui, ok.
Donc, si je récapitule, hein, en 4 jours de Io, je vois le soleil et les étoiles qui se lèvent et qui se couchent 4 fois, Europe 2 fois, Ganymède 3 fois, et Jupiter...
Qui ne bouge pas.
Qui ne bouge pas. Donc, il ne se lève pas, il ne se bouge pas.
D'accord.
Voilà, c'est rigolo, le ciel de Io, quand même.
Bon, mais ça, c'est ce que tu vois en regardant en l'air. Et autour de toi, qu'est-ce que tu vois, alors, si tu es sur Io ?
Ah, alors là, c'est, c'est assez agité. Essentiellement, ce que je vois, c'est des volcans. Mais alors, il y en a beaucoup, il y en a partout, des volcans.
Ah !
Celui qui les a découverts pour la première fois, en fait, c'est la sonde Voyageur. Puis depuis, on les a observés avec d'autres sondes, avec des télescopes. Et on en a vu au moins 150.
Ah oui ?
Oui, il y en a partout, et on pense même qu'on ne les a pas tous vus, il doit y en avoir au moins 400.
Ah, ok.
Et alors, ça érupte dans tous les sens. Il y en a différentes sortes, d'ailleurs. Il y en a qui font vraiment des éruptions, comme sur Terre, qui projettent de la lave, qui va retomber à côté, qui va s'écouler. Il y en a qui coulent en continu.
Des coulées de lave.
Des coulées de lave, donc qui vont remplir le bassin, le cratère du volcan, et puis après, ça va s'écouler partout sur la surface. Et puis, il y en a qui font carrément des explosions. Alors là, ça projette du gaz et de la poussière, des cailloux très, très haut dans l'espace, à 300 km d'altitude.
Ah ouais, 300 km, c'est pas mal quand même.
Ben oui, si tu compares aux volcans sur Terre, sur Io, la gravité est beaucoup moins forte déjà, puisque c'est un as beaucoup plus petit.
Ah ben oui.
Donc, ça retient moins les trucs qu'on balance. Et puis surtout, il n'y a pas d'atmosphère.
Donc, ça freine pas.
Sur Terre, quand tu lances un caillou en l'air, à toute vitesse comme un volcan, bah, il est très vite freiné par l'air. Là, il peut s'éclater.
Et donc, qu'est-ce qu'ils émettent, tous ces volcans
En bonne partie, des laves qui sont à peu près les mêmes que sur Terre, en fait, des basaltes, hein, c'est des roches à base de silicates. Et puis, par contre, c'est mélangé aussi avec pas mal de soufre. Et le soufre, c'est chouette parce que suivant les formes qu'il prend, il prend plein de couleurs différentes.
Ah oui, ça peut être jaune, orange...
Rouge, même, oui. Ce qui fait que sur le sol de Io, quand on regarde sur les photos, il y a des régions qui sont plutôt jaunes, des régions qui sont plutôt rouges.
Ah.
C'est assez beau à voir.
Ah oui, donc avec toutes ces coulées de lave, de machin, de trucs, il faut que tu fasses attention où tu mets les pieds quand même, quoi.
Ah ben, si tu veux te mettre sur Io, il faut faire gaffe. Parce que si tu es loin des volcans, il y a quand même des endroits un peu tranquilles. Là, je te rappelle qu'il fait dans les moins 150 degrés.
Ok.
Et quand tu t'approches des volcans, eh ben, tu peux avoir 200, 300, 500. Le plus chaud qu'on ait mesuré jusqu'à maintenant, c'est 1300 degrés.
Ah, ouais. Ok. Mais alors, donc, c'est comme sur Terre. En profondeur, tu as du magma super chaud qui remonte, qui s'échappe comme ça.
Oui, c'est tout à fait ça. Mais par contre, la source de chaleur n'est pas la même. Sur Terre, en fait, pourquoi est-ce que le centre de la Terre est beaucoup plus chaud que la surface ? Il y a une raison, c'est simplement sous l'effet du poids. Hein, dès la formation de la Terre, toutes ces roches qui se sont accumulées, qui se sont écrasées, ça les a fait chauffer. Et même si une grande partie de cette chaleur, maintenant, s'est dissipée dans l'espace, il en reste quand même.
D'accord.
Le noyau de la Terre, il est bien chaud à cause de ça. Mais après, dans toute l'épaisseur, surtout, ce qui chauffe, c'est les matériaux radioactifs.
Ah, il y a de l'uranium, des trucs comme ça, dans le sous-sol de la Terre.
Et cette chaleur, en fait, elle est engendrée dans toute l'épaisseur et elle va progressivement vers la surface et elle se dissipe à partir de la surface. Donc finalement, sur toutes les planètes qui ont ce genre de mécanisme, plus la planète est grande, plus elle a un gros volume par rapport à sa surface.
Ah oui, ok. Il faut que tu aies une certaine quantité quand même suffisante.
Voilà, pour que ça chauffe.
Relativement peu de dissipation en surface.
Donc si tu prends un astre qui est beaucoup plus petit, comme Io, Même s'il y a un peu de chaleur comme ça, comme la surface est beaucoup plus grande par rapport au volume, toute cette chaleur va partir. Donc, ce n'est pas ça qui peut expliquer que le centre de Io soit chaud.
Mais alors, qu'est-ce qui a fait chauffer ?
Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre source d'énergie dans ce coin-là ? Eh bien, encore une fois, la gravité de Jupiter.
Ah !
On n'en sort pas, ce monstre-là, ce ballon de foot qui est à quelques encablures. Et par quel mécanisme ? Eh bien, encore une fois, les effets de marée.
Ah, tu veux dire que ça fait comme un bourrelet, là, ce que tu m'avais expliqué sur la Lune ?
Oui, Io, elle est déformée, elle est allongée dans la direction de Jupiter, comme un ballon de rugby, enfin, pas autant qu'un ballon de rugby, mais elle n'est pas vraiment ronde. Mmh. Alors, si Io était toujours à la même distance de Jupiter, si elle était sur une orbite qui était un cercle parfait, elle se serait déformée comme ça, une fois pour toutes, au début de sa formation.
Et après, ça ne bouge plus.
Et après, ça ne bouge plus. Donc là, il n'y a pas de source d'énergie. Mais en fait, l'orbite, elle est très légèrement excentrique.
Ah, ça fait une ellipse.
Ça fait une ellipse, et donc il y a des moments où Io va être un petit peu plus près de Jupiter, et des moments où elle est un petit peu plus loin.
Donc elle est un peu plus attirée, donc plus déformée, ou un peu moins attirée, donc moins déformée.
Voilà, les variations de distance sont faibles, mais comme la gravité de Jupiter est énorme, ça suffit quand même à faire des déformations d'à peu près 100 mètres.
Ah, tu veux dire que si tu es debout sur la surface de Io, en fait, toutes les 42 heures, tu vas monter et descendre de 100 mètres.
Tu t'en rends pas compte parce que le sol bouge avec toi, mais c'est exactement ça.
Ah, tu fais le yo-yo.
Le yo-yo de Io, oui, si tu veux. C'est tout à fait ça. Et ça, c'est pas juste en surface, c'est dans toute l'épaisseur. Donc, t'imagines les roches qui sont là-dedans, qu'on va faire glisser les unes sur les autres, les comprimant et les déprimant de 100 mètres tous les jours.
Bah, ça fait comme une pompe, en fait.
Oui, c'est une pompe qui, le frottement va produire de la chaleur. Et ça suffit à maintenir les roches en fusion à l'intérieur de Io et à faire tous ces volcans.
D'accord.
C'est une source d'énergie assez phénoménale.
Ok. Et alors, après Io, donc c'est l'Europe, c'est ça ? C'est comme chez nous, en fait.
Oui, c'est comme le continent. C'est la même origine, d'ailleurs. Hein. C'est une nymphe de la mythologie qui a donné son nom à la fois au satellite et à notre continent.
Ouais.
D'ailleurs, oui, dans pratiquement toutes les langues, on l'appelle Europa. Il y a juste en anglais où ils sont un peu plus subtils, ils disent Europa quand ils parlent de la nymphe ou du satellite de Jupiter,
ouais.
Ils disent Europe comme nous quand ils parlent du continent.
Ah bon, d'accord.
Donc du coup en français il y a des gens aussi qui par anglicisme disent Europa quand ils parlent du satellite de Jupiter, mais bon le plus souvent on dit Europe.
Ok, et alors il y a aussi cet effet de pompe, de force de marée et tout ?
Oui, mais qui est quand même beaucoup moins fort parce qu'elle est plus loin de Jupiter. Donc là, ça fait une déformation qui fait à peu près 30 mètres dans le sens.
Et puis, c'est pas rien quand même.
C'est pas rien. Mais en plus, c'est moins rapide, puisque ça se produit qu'une fois toutes les 84 heures au lieu de 42. Donc ça produit moins de chaleur aussi. Donc le centre d'Europe est quand même bien chaud, mais pas au point que ça fasse des roches en fusion qui font des volcans. Et d'ailleurs, du coup, la surface d'Europe, on est plutôt dans les températures dont on a l'habitude dans le système jovien. Et donc la surface d'Europe, elle est recouverte de glace.
Mais d'où elle vient cette glace ?
Eh bien, tu te rappelles, je t'ai dit que le nuage où toutes ces lunes se sont formées, c'était un mélange à peu près à égalité de glace et de rochers.
Ah.
Les autres lunes, elles ont gardé cette composition-là. C'est juste Io, à cause de son énorme chaleur de tous ces volcans, la glace, ça fait longtemps qu'elle est partie.
D'accord. Et donc, Europe, elle a gardé toute sa glace.
Et d'ailleurs, la surface d'Europe, elle est extrêmement lisse. On dit que c'est l'astre le plus lisse qu'on connaisse dans tout le système solaire.
Ah, ça fait une espèce de grande patinoire sphérique, c'est ça ?
Ouais, enfin, c'est pas lisse à ce point-là quand même qu'une patinoire, c'est lisse à l'échelle d'une planète. C'est-à-dire qu'il y a des montagnes, il y a des crevasses, mais qui font que quelques dizaines ou centaines de mètres de haut. Il n'y a pas des montagnes qui font des milliers de mètres comme sur Terre. Si tu veux te le représenter, la meilleure image, c'est la banquise, tu vois, quand tu te balades sur la banquise au pôle Nord, tu dois escalader des falaises de glace, descendre dans des crevasses, mais tu n'as pas des grandes montagnes.
Ah oui, donc il y a quand même des crevasses, mais alors elles viennent d'où ?
Et bien, si tu prends cette espèce de banquise qui est quand même malaxée un peu par les forces de marée, même si ça ne suffit pas à la chauffer, ça suffit à la faire craquer dans tous les sens.
D'accord.
Ce qui veut dire que la surface d'Europe, elle est remodelée en permanence, mais à une échelle quand même de plusieurs centaines de milliers ou millions d'années. On s'en rend compte d'ailleurs parce qu'il y a certains endroits où il y a des cratères d'impact.
Ah, des trucs qui sont tombés dessus, tu veux dire ?
Oui, sur tous les astres du système solaire, hein, il y a des météorites qui tombent en permanence. Et c'est comme ça qu'on date le moment où une surface a été modifiée pour la dernière fois.
Ouais.
Sur Terre, il y a très très peu de cratères d'impact parce qu'il y a toujours de l'érosion, la dérive des continents, tout ça modifie la surface. Sur la Lune, il y a énormément de cratères parce qu'elle est... Elle est plutôt morte, il ne se passe pas grand-chose depuis des milliards d'années. À l'extrême inverse, Io, avec ses volcans qui modifient la surface en permanence, n'y a absolument aucun cratère d'impact.
Ah oui.
Même s'il y a une météorite qui tombe, au bout d'un an, ça y est, on ne voit plus rien. Quoi.
D'accord.
Sur Europe, c'est un petit peu moins violent. Si une météorite tombe, on voit encore le cratère pendant des centaines de milliers, voire maximum, les cratères les plus anciens qu'on voit, on pense qu'ils doivent avoir 180 millions d'années.
Oui, c'est rétrofarien.
À l'échelle astronomique, ce n'est pas énorme. Tous les plus anciens ont été complètement effacés par les mouvements de la glace.
D'accord, donc toute la surface, c'est de la glace. Et en dessous, t'as quoi ?
Alors, à l'intérieur d'Europe, du fait qu'il y a un peu de chaleur quand même dû aux effets de marée, ça a permis aux différents composants de se séparer en partie. La glace qui est le plus léger est venue en surface. Normalement, les éléments les plus lourds, les métaux, ont dû venir au centre. Donc, on pense qu'il y a un noyau métallique vers le centre.
Ouais.
Au-dessus, il y aurait la partie qui serait vraiment les roches, donc une densité intermédiaire entre les métaux et la glace.
D'accord.
Et au-dessus de ça, il y aurait très probablement un océan.
Ah.
Donc un océan souterrain, mais qui ferait quand même 150 km d'épaisseur.
Ah oui, il y a vraiment, c'est le grand bain là.
Hein. Ah, il y a beaucoup plus d'eau que sur toute la Terre.
Hein. Ah oui, plus d'eau que sur toute la Terre.
Alors non seulement il y aurait cet océan, mais c'est certainement de l'eau salée.
Ah, et comment on sait? On est allé goûter?
On n'est pas allé goûter, mais c'est ça, là c'est une histoire de conductivité. Si tu regardes le champ magnétique de Jupiter, qui est très intense, autour de chaque satellite, on peut regarder comment il est modifié. Et ça va dépendre de si le satellite est conducteur ou pas.
Ah oui, si ça laisse passer le courant.
À ce moment-là, les lignes de champ magnétique vont être orientées d'une certaine façon.
Ouais.
Et c'est le cas autour d'Europe. Donc, il y a quelque chose de conducteur dans l'Europe, et le plus vraisemblable, c'est que ce soit de l'eau salée.
D'accord.
Puisque l'eau pure, elle n'est pas conductrice, mais l'eau salée, elle est conductrice.
OK.
Et alors finalement, cet océan souterrain qui est maintenu à une température raisonnable par les forces de marée,
ouais,
sans être vraiment trop chaud comme sur Io, en dessous, il y a des roches. Eh bien, un endroit où il y a de l'eau, il y a des roches avec différents minéraux dedans et il y a une source d'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça?
Ah, on pourrait faire des molécules un petit peu intéressantes.
Eh bien, pourquoi pas faire des êtres vivants?
Ah.
C'est des conditions qui sont assez proches de celles qu'il y a à certains endroits au fond de la mer.
Ah.
Alors, si tu veux tenir compte du fait qu'il n'y a pas seulement l'eau et la roche, mais qu'il y a aussi de la glace au-dessus, on pourrait comparer ça avec les lacs souterrains dans l'Antarctique.
Ah.
Tu sais, quand on creuse la calotte glaciaire dans l'Antarctique, il y a certains endroits sous 4 km de glace.
Oui, quand même.
On a trouvé un énorme lac, le lac Vostok. Et là-dedans...
Il y avait des bestioles, des poissons qui circulaient et tout
Pas de poissons, mais il y avait des êtres vivants, des bactéries, des micro-organismes. Ce qui veut dire que c'est possible de vivre dans ces conditions, sans aucun contact avec l'extérieur, sans lumière solaire. Et donc, pourquoi pas sur Europe? En fait, on pense que c'est vraiment l'endroit, à part la Terre, l'endroit de tout le système solaire qui serait le plus favorable pour qu'il y ait des êtres vivants qui soient apparus.
Ah, bah, du coup, il n'y a plus qu'à aller voir.
Il n'y a plus qu'à, oui, comme tu dis. Alors déjà, il faut arriver à se poser sur Europe, pourquoi pas. Mais après, je te rappelle qu'il y a quand même une couche de glace au-dessus qui fait dans les 30 km d'épaisseur.
Ah, c'est plus que 4, là.
Alors, envoyer un robot qui soit capable de creuser à travers 30 km de glace. En plus, la glace, bon, en surface, elle est encore assez souple, assez malléable. Mais plus on va en profondeur, plus elle est tassée, elle est dense, elle est froide. Et donc, la glace à 30 km de profondeur, c'est comme de la pierre, quoi. C'est comme du granit.
D'accord.
Donc, on n'arrivera pas à creuser de sitôt. On n'a vraiment pas la technique pour faire ça.
Ah zut, alors du coup, on ne saura jamais, alors.
C'est pas si sûr que ce soit désespéré. Il y a une découverte assez récente qui laisse penser qu'on pourrait peut-être arriver quand même à récupérer des échantillons de cet océan.
Ah bon? Avec une pelle et un seau?
Pas tout à fait. En fait, ce qu'on a découvert, c'est des sortes de geysers, des grands panaches d'eau, dans le ciel d'Europe, et il est très probable que ce soit de l'eau de cet océan souterrain qui arrive à trouver des fissures, des craquelures pour passer à travers toute la couche de glace.
Ah, et ça fait des grands panaches comme ça qui montent
Et ça fait, alors c'est pas des grandes quantités d'eau, hein, ça fait à peu près 2 tonnes par seconde.
Quand même.
Ouais, alors pour un geyser ça fait beaucoup, mais à l'échelle d'une planète c'est pas grand chose. Mais enfin, c'est pas négligeable. Et donc pour les récupérer finalement, il y aurait même pas besoin de se poser. Il suffirait d'envoyer une sonde en orbite autour de Io.
Qui passerait au bon moment, au bon endroit.
Alors voilà, il faudrait qu'elle puisse naviguer, viser. Et puis, elle tend sa petite cuillère au moment où elle passe sous la douche, et elle récupère un petit peu d'eau là-dedans, et elle pourrait l'analyser et voir s'il y a des molécules organiques dedans.
D'accord.
Après, être capable de distinguer, parce que les molécules organiques, même sur Terre, il y en a qui ne sont pas du tout faites par les êtres vivants. Donc, il y a des gens, même actuellement en laboratoire, en prévision de ce genre de mission, qui sont en train de s'entraîner à voir par quels moyens on pourrait distinguer sur des toutes petites quantités si une molécule organique a été faite par un processus purement chimique ou si ça vient vraiment de quelque chose de biologique.
Ah oui, donc ce n'est pas encore demain la veille qu'on va en avoir le cœur net sur ces possibilités.
Il y a encore du travail.
Alors, du coup, couplet suivant... je vais partir de la même façon. So fly me to the Galileans of Jupiter.
Alors fais-moi voler jusqu'aux lunes de Jupiter.
Let me see my Io volcanoes, many questions pose.
Fais-moi voir pourquoi les volcans d'Io posent beaucoup de questions.
Europe so smooth and icy.
Europe qui est si lisse et glacée.
May hide much more than what I see.
Cache peut-être bien plus que ce que je vois, une jolie rime là.
Eat many creases and pews.
Ces nombreuses crevasses et panaches.
Let us presume.
Nous laisse supposer.
A hidden sea here looms.
Qu'une mer cachée est tapie là.
Voilà.
Bien. Alors qu'est-ce que tu as modulé cette fois?
Alors j'ai continué mon parcours en partant de la même façon, c'est-à-dire que j'étais arrivé sur Do majeur au début. Hein. J'ai fait mon atoll. Et j'ai minorisé mon accord de Do majeur.
Tu changes le Mi par un Mi bémol.
Voilà, je suis arrivé donc sur un accord de Do mineur. Et j'aurais pu continuer de la même façon, mais au dernier moment, j'ai fait un anatole dans une tonalité complètement différente. J'ai pris une bifurcation là, qui me fait arriver en La majeur. Donc au lieu d'aller de Do vers Mi bémol majeur, comme j'avais fait la première fois, je pars de Do et je vais vers La majeur. Et après, j'enchaîne. Alors cette fois, je vais aller vers Ré bémol majeur ce coup-ci. Et La bémol majeur enfin. Donc, pour récapituler, j'ai vu Do majeur. Après, je suis allé en La majeur, en Ré bémol majeur. Et enfin en La bémol. La bémol majeur.
Oui, alors pourquoi c'est une tonalité-là plutôt qu'une autre?
Parce que ce que j'avais fait la première fois, tu te souviens, c'était j'étais allé de Do, puis vers Mi bémol. Après, j'étais revenu, redescendu en dessous de Do, j'étais allé sur Si majeur, et j'avais fini par Mi majeur. Si tu regardes le schéma que ça fait, je monte d'abord de Do vers Mi bémol, ça fait 3 demi-tons. Je redescends de 4, j'arrive sur Si, et je monte de 5. Là, maintenant, dans ce nouveau couplet, je suis parti de Do, tout pareil. Je suis descendu de 3 sur La. Je remonte de 4.
Et tu vas redescendre de 5.
Et je redescends de 5, La bémol.
Donc tout en symétrique.
Tout en symétrique. Alors moi, j'aime beaucoup les symétries, mais elles ne sont pas toujours très faciles. Parce que y a certains enchaînements qui sont beaucoup plus faciles dans un sens que dans l'autre. C'est ce qu'on avait vu quand tu avais renversé l'anatole.
Ah oui, tu étais obligé de rajouter une petite note pour que ça s'enchaîne bien.
C'est ça. Donc, déjà, je suis bien content d'être arrivé à faire cette petite symétrie. Et puis, je voudrais que tu mesures mon courage.
Oh là là.
Parce que j'ai refusé de m'installer dans ce que j'appelle un ascenseur algorithmique.
Un quoi?
Ben, tu te souviens, par exemple, tout à l'heure, j'avais mon petit anatole en Do majeur, La, Ré, Sol, Do. Je minorise mon accord, j'arrive sur Do mineur, et je repars comme si c'était un sixième degré, mais cette fois pour arriver en Mi bémol majeur.
Le dernier accord d'un anatole et le premier accord d'un autre dans une autre tonalité.
Voilà, sauf que pour ça, il faut que je le fasse passer d'un accord majeur à un accord mineur.
Ça, tu peux recommencer autant de fois que tu veux.
Eh bien voilà, du coup, j'aurais très bien pu faire. Donc, La, Ré, Sol, Do, je minorise, je deviens en Do mineur, Do, Fa, Si, Mi. Mais je peux le minoriser. Là, je suis en Sol bémol majeur. Je peux le minoriser. Et encore une fois, je suis arrivé sur La. Je peux le minoriser. La mineur. Oh, bah, La mineur. Ré, Sol, Do. Et finalement, je suis retombé sur Do majeur à l'arrivée.
Bah, c'est pas un ascenseur, c'est une grande roue. Alors, tu retombes sur tes pieds à la fin.
Oui, il y a de ça. Bah, de toute façon, ça s'explique, hein, puisque 3, c'est un diviseur de 12.
Oui, alors
donc, comme entre mon point de départ à chaque fois et mon point d'arrivée, je suis monté de 3 demi-tons.
Ah, si tu fais ça 4 fois de suite,
ça fait 12 demi-tons, c'est-à-dire
une octave.
C'est ça. Donc finalement, d'accord, au bout d'un moment, tu retombes sur la même note.
Donc si tu fais 4 anatoles de suite, à chaque fois, tu minorises le dernier accord pour donner le premier accord du suivant, et au bout de 4 fois, tu retombes sur la même note.
Voilà, tu comprends ce que j'entends par algorithmique. C'est une suite d'opérations mathématiques, toute simple, que tu peux répéter dans le même ordre.
Il n'y a pas beaucoup de créativité artistique là-dedans.
Non, et donc j'ai refusé de faire ça.
Ah, c'est bien.
Donc d'une part, je suis parti de Do, et cette fois, mon ascenseur, je l'ai forcé à descendre, alors qu'il avait vraiment envie de tourner vers le haut. Je l'ai forcé à descendre vers 3 demi-tons plus bas. Et puis après, tout le même enchaînement, la même structure de modulation que j'avais faite, je l'ai reprise, mais en sens inverse. C'est-à-dire que déjà, dans le premier couplet, t'avais vu, j'étais passé de Do vers Mi bémol, puis après j'étais redescendu sur Si majeur, donc j'étais même pas resté dans mon ascenseur. Hein. Je l'ai pris juste une fois et je l'ai pas fait tourner plusieurs fois. Je triche pas, moi, monsieur. Alors, c'est vrai que toutes ces astuces de modulation par tierce mineure ou tierce majeure, c'est des astuces qui ont été beaucoup utilisées par pas mal de jazzmen à partir des années 1960. Par exemple, en particulier John Coltrane, hein, notamment dans un thème très connu qui s'appelle Giant Steps. Et en fait, ce qu'on sait moins, c'est que Coltrane se référait à des travaux d'un théoricien russe de la première moitié du XXe siècle, qui lui, pour le coup, n'était pas du tout un jazzman, c'était vraiment de la musique hyper savante, hyper expérimentale, qui s'appelait Nicolas Slonimsky.
À tes souhaits.
Voilà, le bouquin de Slonimsky, c'est marrant parce qu'en France, il est vraiment très 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 peu connu, mais on raconte que Coltrane, il l'avait tellement lu que la couverture était tombée, les pages tombaient en lambeaux, enfin c'était vraiment sa bible, quoi.
Son livre de chevet.
Voilà.
Et alors, c'est ce livre-là qui explique toutes ces modulations et les façons de passer d'une tonalité à l'autre.
Voilà, c'est une espèce de catalogue de toutes sortes de modulations qui sortent des relations tonales classiques, la cadence parfaite, les cycles de quinte, etc., etc. Donc moi, je me sers un petit peu de ce genre de choses, mais j'essaye quand même de les faire tourner dans un sens, puis dans l'autre, et puis jamais de m'installer de façon systématique. Si j'étais dans quelque chose de complètement systématique, d'ailleurs, au bout d'un moment, tu t'en rendrais compte. Hein, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu. Alors que moi, avec ce que je fais...
C'était le modèle standard par Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Cet épisode est diffusé sous licence Art Libre.
À très bientôt pour la deuxième partie.
Retrouvez-nous sur
lemodèlestandard.fr.